Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
What now, my love? Now that it's over.
RTL.
I feel the world. It's closing in on me.
Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quelques grands noms du jazz, Coltrane, Sinatra, Ellington. On vous raconte l'histoire de ces stars grâce à notre invité Pascal Cobert qui publie un abécédaire amoureux du jazz aux éditions Snook, c'est ça?
Snook.
En association aussi avec le musée de l'ancien évêché à Grenoble.
C'est ça, Snook. Snook is a Belgian editor. Snook est un éditeur belge.
On va peut-être pas faire toute l'interview en anglais.
Mais
on a progressé avec Sidonie.
Yeah, thank you. Snook est un éditeur belge installé à Gand qui fait également des catalogues pour des grandes manifestations comme Visa pour l'image, le festival du photojournalisme à Perpignan, d'accord, ou Photo Fever, cette grande foire d'art contemporain autour de la photo. Parce très grand éditeur.
C'est un livre de photos, des photos sur lesquelles est basé une exposition qui se tient à Grenoble, qui vient de démarrer donc au musée de l'ancien évêché. Ça fait combien de temps que vous photographiez les stars du jazz?
Je ne devrais pas le dire parce qu'on va deviner mon âge, mais ça fait 30 ans que je travaille pour Jazzot, 87.
Vous avez commencé à 5 ans? Oh là là.
Eh oui, merci Sidonie.
Je serai toujours là pour vous.
Est-ce qu'ils sont plus accessibles, ces musiciens de jazz, que les rockstars, on va dire?
Ah oui, ils sont infiniment plus accessibles que les rockstars.
Même les très très connus. Hein.
Même les très grands, oui. Marcus Miller, qui a signé la préface de mon livre, qui accompagne cette exposition, est quelqu'un de très accessible, que j'ai vu jouer dans un festival, par exemple, et inviter 40 gamins qui étaient en stage une semaine avant dans ce festival, 40 gamins sur la scène à la fin de son concert. Ça, c'est magnifique.
Ouais. Marcus Miller, qui est un petit peu là dans notre studio de la curiosité, l'un des plus grands musiciens de jazz.
Alors Pascal Cobert, Marcus Miller, c'est d'abord un grand bassiste, c'est ça. Hein, c'est moi, je l'ai découvert à Marciac, à Jazz in Marciac, il y a 2 ans. Je ne connaissais pas, hein, je ne suis pas un grand féru de jazz. Mais j'étais bluffé, ça a duré 3 heures, on était tous debout sur les chaises, il y avait ce rythme donné par la basse là, qui vous envahit le corps, c'était magique, tout simplement magique.
C'est ce qu'on
magique,
appelle quoi. Le slap à la basse, c'est un grand spécialiste du slap, c'est-à-dire cette façon de taper sur les cordes avec le pouce et les doigts, et qui est d'une façon beaucoup plus rythmique effectivement que bien d'autres bassistes.
Marcus Miller, qui était l'un des musiciens de Miles Davis.
Oui, il a accompagné Miles Davis dans les années 80, il est arrivé sur l'album qui s'appelait Tutu, en hommage à Desmond Tutu, le sud-africain, et il a composé et arrangé beaucoup des albums de Miles Davis. Il a également fait avec lui la musique d'un film qui est très peu connu, qui s'appelle Siesta. C'est un film australien, film dont on peut oublier les images, mais qui par contre pour la musique est absolument magnifique et qui préfigure Amandla, qui était un des derniers disques de Miles.
Et ça nous mène évidemment à Miles Davis, trompettiste et compositeur qui a formé de nombreux talents du jazz d'aujourd'hui.
Ah oui, Miles, on peut dire que ça a été l'école du jazz à partir des années 60, qu'il a vu passer tous les grands d'aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui sur les grandes scènes. On va les voir d'ailleurs à Marciac ou à Jazz à Vienne.
On pense à qui, par exemple?
Des gens comme Herbie Hancock, comme Chick Corea, comme John McLaughlin, comme Wayne Shorter. Beaucoup, beaucoup de musiciens qui sont aujourd'hui des têtes d'affiche du jazz sont passés par, entre guillemets, l'école Miles Davis.
Parce que il y avait des groupes, des formations peut-être pour le jazz. Moi, je me souviens du concert de Marcus Miller, ils étaient 8 ou 9 sur scène et il y avait des jeunes, il y avait un percussionniste, un batteur qui était tout jeune. Donc il y avait cette idée là aussi chez Miles Davis de varier les générations.
Ah, dans le jazz, il y a toujours cette idée de la transmission. Toujours cette idée de la transmission. Marcus est quelqu'un qui est à peu près de ma génération, il doit avoir 55 ans par là. Il a toujours aimé faire jouer des jeunes musiciens. Miles pareil. Quand je vous parle de Chick Corea et de Herbie Hancock qui aujourd'hui ont aux alentours de 60-70, quand ils ont commencé à jouer avec Miles, ils avaient 20 ans quoi, et personne ne les connaissait.
Il y a aussi Jazz à Jouan évidemment, qu'il faut citer, festival dont RTL est le partenaire et qui sera diffusé sur l'antenne d'RTL en soirée. Je pense que ce sera après 22h, j'ai pas les dates en tête, mais on va les retrouver. Dans votre abécédaire, Pascal Cobert, à la lettre E comme enfant, vous racontez aussi l'histoire d'Al Jarreau qui arrive en retard au festival Les Enfants du Jazz. Alors ça, c'est à Barcelonnette. Ouais, pourquoi il arrive en retard ?
Barcelonnette, c'est au fin fond des Alpes et il arrive en retard parce que, en fait, il était programmé une année auparavant.
Ouais, c'est un gros retard, oui.
Et il a eu un arrêt cardiaque, un gros problème de santé qu'on a été obligé de le transporter à l'hôpital à Marseille en hélico. Et il est arrivé sur scène une année après, donc en disant « Excusez-moi les amis, mais j'ai un petit peu de retard. » En fait, effectivement, il avait un an de retard.
C'est drôle.
Al Jarreau, dont le morceau le plus connu est sans doute « Boogie Down ». Pascal Cobert, qu'est-ce qui est le plus marquant chez Al Jarreau ? C'est son sourire, peut-être ?
Ah oui, c'est son bonheur de vivre que j'ai connu justement dans ce festival, mais ailleurs aussi dans d'autres festivals. Il était en lien avec les enfants, comme ça, il voulait leur transmettre des trucs, son plaisir de jouer cette musique. Et c'était absolument incroyable, cette qualité de sourire. Il est tout le temps souriant, en fait.
C'est quoi son instrument fétiche chez Al Jarreau ?
C'est la voix.
C'est la voix.
La voix.
La voix. Ouais. La voix. La voix qui est finalement, on le dit pas assez, mais la voix est la porte d'entrée la plus facile pour le jazz. Parce qu'on dit souvent que le jazz est une musique un petit peu compliquée, et quand les gens me disent « Ah, le jazz, oui, mais non, le free jazz. » Mais non, le free jazz, c'est une des données du jazz, c'est une très courte période. Mais en réalité, si vous voulez écouter du jazz vocal, écoutez La Fitzgerald, écoutez aujourd'hui des chanteuses comme Diane Reeves, comme la petite qui fait la couverture de mon bouquin, qui s'appelle Agathe Iracema, qui est une jeune franco-brésilienne, merveilleuse chanteuse de jazz. Et le jazz vocal est vraiment la porte d'entrée pour le jazz.
Et ben, ça tombe bien, parce qu'on va écouter effectivement quelques-unes de ces jazz ladies, mais d'abord j'ai retrouvé les dates du festival, enfin c'est surtout Gérald Chaland d'ailleurs, notre producteur qui les a retrouvées. C'est du 15 au 23 juillet Jazz à Juan. Est-ce que l'ambiance sur ces festivals, elle a changé en 20 ou 30 ans de carrière?
Oui.
Est-ce que le public a un peu vieilli?
Non, le public n'a pas vieilli, le public au contraire s'est accru, puisque sur un festival comme Marciac ou Jazz à Vienne ou même Jazz à Juan, ne connais pas les chiffres, mais Jazz à Vienne c'est 200 000 spectateurs par exemple, 90 000 spectateurs payants dans l'enceinte du Théâtre Antique qui accueille 7500 personnes. Donc le public n'a pas vieilli dans les festivals, il a un peu plus vieilli, il faut le dire, effectivement, dans les clubs. Mais il reste très très nombreux, parce qu'aussi les programmateurs ont changé leur façon de programmer.
Et ben voilà, on va continuer de raconter l'histoire du jazz avec vous, Pascal Cobert, et donc, comme promis, l'histoire d'Ella Fitzgerald, Nina Simone et de leurs héritières. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late.
La curiosité est un vilain défaut. RTL.
And once more, that makes thrice. Let's make it four.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Gregory Porter, Charlie Parker, Sarah Vaughan, Oscar Peterson, le jazz est né il y a un siècle, en 1917. Et on fête son anniversaire notamment au musée de l'ancien évêché à Grenoble avec une exposition abécédaire, amoureux du jazz. C'est le titre de cette expo réalisée autour des très belles photos de notre invité Pascal Cobert. Qui sont les grandes stars du jazz aujourd'hui ? Il y a Gregory Porter par exemple qu'on vient d'entendre.
Il y a bien sûr Gregory Porter, mais il y en a tant d'autres. Agathe Iracema dont je parlais tout à l'heure, une jeune chanteuse coréenne qui s'appelle Yoon Sunna qui fait son grand retour au bout de 2 ans d'un petit peu d'absence où elle est retournée dans son pays, la Corée. Des gens comme Ibeyi, un duo de deux jumelles, les filles d'un percussionniste cubain qui s'appelait Anga Diaz, que j'ai connu au Maroc il y a quelques années. Et ces deux filles, aujourd'hui, elles ont quoi ? Elles ont 18 ans, 20 ans. Enfin, elles font une musique absolument incroyable. Mais une musique qui, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces tempes grises qui devraient hanter les festivals, ben non, justement, grâce à ce genre de musiciennes, ce sont des jeunes qui sont dans les festivals.
Et il y a aussi les jazz ladies comme Diana Krall, Nora Jones ou Melody Gardot.
If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair.
Mélodie Gardot, Baby I'm a Fool. En préparant l'émission, je suis tombé sur le clip qui est quand même très très sensuel. Elle est en train de prendre un bain.
Elle est extrêmement
muissant,
érotique cette chanteuse.
Elle est très très érotique. C'était un bon souvenir de ma journée, donc je voulais le partager avec vous. Pascal Cobert, on a employé l'expression jazz ladies. Évidemment, cette expression, elle n'a pas été inventée pour la nouvelle génération.
Et non, elle a été inventée pour Ella Fitzgerald, the Great Ladies of Jazz. Qui était effectivement l'une des premières à mettre en avant ce jazz vocal qui aujourd'hui trouve une suite avec Mélodie Gardot, avec Norah Jones, avec toutes celles que vous avez évoquées.
Et pourquoi on en fait une catégorie de ces femmes qui chantent du jazz? Parce qu'à l'origine, c'était pas une évidence des femmes qui chantent du jazz, ou parce qu'elles apportent quelque chose de particulier à cette musique, à ce genre?
Eh bien, je pense qu'une grande partie des chansons du Great American Songbook, donc les chansons écrites pour Broadway ou par Gershwin, par exemple, sont des chansons dont les textes sont écrits pour des femmes, donc ils ont été chantés par des femmes, et d'ailleurs il y a quelques-uns, Tony Bennett, quelques-uns, musiciens, chanteurs de jazz, mais au fond quand même majoritairement des femmes, ce qui n'est pas pour me déplaire, on va dire.
Moi non plus.
Bah non, et personne ne trouve ça une mauvaise nouvelle. On va écouter Nina Simone dans un instant sur RTL. Peut-être on dit un mot de Billie Holiday, parce que Billie Holiday, on a déjà raconté ce destin dans la curiosité, c'est une vie cabossée, Billie Holiday.
Ah oui, c'est une vie totalement cabossée. Son père avait 13 ans et sa mère 15, ou l'inverse, je sais plus. Enfin, bon. Donc vous imaginez cette vie. Elle a été placée dès son plus jeune âge, violée dans des institutions où elle était hébergée. Elle a connu la drogue, elle a connu l'alcool, elle a connu beaucoup de maris ou de compagnons qui ont abîmé sa vie, soit parce qu'ils lui ont piqué son pognon, soit parce que. Enfin, bref. Enfin, non,
parfois violent.
Extrêmement cabossé. Très, très violent. Ouais.
Billie Holiday qui meurt en 1959, et quelques mois plus tôt, elle avait enregistré cette chanson.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true.
Pascal Cobert, vous aviez les yeux fermés quand vous écoutez Billie Holiday. Vous faites souvent ça vous écoutez du jazz?
Ah oui, souvent. C'est dommage pour un photographe. Hein.
On voit des choses les yeux fermés aussi.
On voit des choses.
Et on ressent des choses. Moi, ça me donne des frissons d'entendre Billie Holiday comme ça.
On va parler maintenant d'une autre grande dame du jazz. Elle est née avec cette musique en 1917. C'est Ella Fitzgerald. Elle a marqué le temps du swing. Qui a inventé ce terme d'ailleurs, swing?
Alors, le swing était inventé. En fait, c'est un terme qui a été inventé par un journaliste de la BBC. Le swing, en fait, la période de swing correspond à cette période de la Grande Dépression aux États-Unis, où tout le monde était un petit peu déprimé. Et se sont développés à ce moment-là des grands big bands de jazz, les grands big bands de swing, Count Basie, Duke Ellington, tant d'autres, qui en fait étaient là pour faire danser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine le jazz, c'est pas une musique entre guillemets intellectuelle, c'est pas une musique de pensée, c'est d'abord une musique de danse, de divertissement, d'entertainment, qui font que les gens, ils étaient sur le parquet, et ils dansaient. Enfin, on le voit dans les films.
Le swing, c'est une musique qui console, en fait, à ce moment-là.
C'est une musique qui console, en quelque sorte, de la Grande Dépression qui avait lieu par ailleurs.
Et Ella Fitzgerald, tiens, on va s'offrir un peu d'Ella Fitzgerald, qui chante, par exemple, ce titre. Fitzgerald, 13 Grammy Awards, c'était quoi, si on doit décrire ses caractéristiques vocales, Pascal Cobert?
C'est une fille qui avait une étendue de vocale absolument impressionnante.
Plusieurs octaves,
elle devait avoir au moins 3 octaves de
d'amplitude,
d'écart entre les notes les plus basses et les notes les plus hautes qu'elle pouvait chanter. Surtout, elle a beaucoup scaté, ce qu'on appelle le scat.
C'est quoi le scat?
Le scat, alors c'est...
Ça, c'est de l'improvisation, ça? Ou c'est une...
Oui, c'est
non, il a écrit les paroles juste avant l'édition.
Mais scatter, ça veut dire improviser, en
ça,
fait.
Ça, c'est totalement improvisé, oui, ouais. Effectivement. Et donc, c'est aussi improvisé à la fois rythmiquement et à la fois mélodiquement. Alors, ça joue, en fait, c'est la voix qui joue le rôle d'un instrument.
Oui.
C'est la vibration, quoi. Voilà. Et c'est l'inverse, effectivement, d'un autre genre du jazz vocal qui s'appelle le vocalise, où là, au contraire, tout est organisé, tout est parfaitement millimétré, de façon à ce que quatre chanteurs, ou plus, mais puissent chanter avec des variations de tonalités différentes.
On y va, les gars, on est cap?
Non, on va pas se lancer. Parce que Pascal Cobert, ça va, mais nous, je pense que ça va être moins bien. Non, mais je venais Sidonie, mais c'est vrai que l'improvisation, c'est quand même alors, j'ai dire dans l'ADN, cette expression, elle est galvaudée, mais du jazz, on le retrouve quand même dans beaucoup de formes de jazz.
Oui, c'est effectivement la grande marque de fabrique du jazz. Ça n'est pas la seule musique dans laquelle on pratique l'improvisation. Même les classiques pratiquent l'improvisation, y compris dans des thèmes de Vivaldi. Mais quand même, le jazz est probablement la seule musique au monde où on peut finalement... Moi, je peux aller jouer à Rio de Janeiro ou à Bangkok, trouver un musicien local qui joue du jazz et lui dire, voilà, on se met d'accord sur une grille, on trouve une tonalité et on joue ensemble. On n'a jamais joué ensemble avant et ça fait quelque chose qui ressemble... Ouais. À peu près de la musique.
Et vous parlez la même langue.
D'autres. Et on parle la même langue, oui. Et alors, la même langue, le jazz.
Ouais. L'improvisation, le scat, démonstration avec Ella Fitzgerald, qui sauve ses trous de mémoire grâce à l'impro, c'était à Berlin en 1960. Écoutez.
Yes, the line bones, mumble superman, right there, thank you folks. Look out there, Bobby Tarrant, me and you both singing the same song.
Vous écoutez RTL.
That's why the lady is a tramp. Go.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Diana Krall, Chick Corea, Tony Bennett en duo avec Lady Gaga ont fait les grands noms du jazz sur RTL à l'occasion d'une expo qui se tient jusqu'au 17 septembre à Grenoble, abécédaire amoureux du jazz proposé par notre invité, le photographe Pascal Cobert. Et c'est aussi le titre du livre que vous publiez, publié par le musée et les éditions
Snook.
Snook.
Je dis bien, Pascal? Ouais, vous n'avez pas de micro, en fait. Ah, ça y est.
C'est belge. Snook.
Snook.
On fête donc le centenaire du jazz, 1917. Le premier morceau de jazz, vous nous le disiez tout à l'heure, interprété par des musiciens blancs. Cette année-là, 1917, naissait aussi une légende. Thelonious Monk, c'est l'un des pères fondateurs du bebop. C'est quoi le bebop, Pascal Cobert? C'est plus rythmé, plus syncopé?
Alors,
c'est quoi?
Beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus rapide surtout, et beaucoup plus véloce, et beaucoup plus étonnant, parce qu'en fait, les musiciens qui jouaient dans ces grands orchestres qu'on évoquait tout à l'heure, de swing, avaient envie aussi de pratiquer, parce que le swing et les grands orchestres, c'est quelque chose de très contraignant, parce qu'il faut respecter une partition, il faut jouer ensemble à 18, 16, 24 musiciens. Donc là, ils se retrouvaient en petit comité, 4, 5 personnes, et puis tout à coup, ils partaient dans des improvisations mais totalement folles, et y compris en jouant, je sais pas, quatre accords à la mesure, enfin avec des choses très 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 rapides. Thelonious Monk, qu'on a été l'un des inventeurs avec Charlie Parker, etc. Il lui s'en est éloigné. D'ailleurs, ce qu'on a écouté là à l'instant, c'est plutôt le Thelonious Monk d'après, c'est-à-dire celui qui a finalement révolutionné aussi le jazz par d'autres pratiques musicales que le bebop. Mais le bebop, effectivement, c'est ça, c'est cette liberté dans la musique et dans l'improvisation sur des thèmes extrêmement rapides et très 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 véloce.
Donc c'est quoi? C'est une réaction à un jazz devenu un peu trop rigide, c'est ça?
C'est une réaction à un jazz un peu plus écrit, parce qu'évidemment pour Big Band, c'est comme dans un orchestre classique, on est obligé d'écrire des partitions, il y a des pupitres de cuivre, etc., qui sont obligés de respecter un certain nombre de phrases musicales pour que tout ça sonne. Et alors, évidemment, lorsqu'on est à 5, c'est beaucoup plus facile d'improviser.
Ça, c'est la formation idéale pour un bebop, c'est 5, 4, 5, 4, 5
Oui, c'est 4, 5 personnes, généralement le trio classique, piano, basse, batterie, plus des soufflants, donc un trompette, un sax, la trombone éventuellement, mais c'est, oui, c'est la formation classique, c'est ça. Ouais.
Ils jouent tous ensemble, ouais. ou chacun son moment de gloire dans un.
Alors généralement ils jouent tous ensemble. L'exposé du thème se fait tous ensemble, parce qu'il y a, comme ça une sorte de cérémonial dans le jazz bebop et dans le jazz en général. On expose le thème, on joue la chanson, on joue la mélodie que tout le monde connaît, et puis ensuite on garde la grille d'accords sur laquelle est bâti le thème et on improvise chacun à son tour.
Alors, vous jouez du jazz, vous aussi ?
Un petit peu.
Vous êtes un soufflant ?
Non, je suis un bassan.
Un bassan, donc vous êtes de la guitare basse.
Je joue de la guitare basse.
Donc le slap dont on parlait tout à l'heure de Marcus Miller, vous le pratiquez un peu ?
Oui, il me parle tout à fait, mais je ne joue pas très slap, puisque je suis plutôt sur une basse acoustique fretless, et j'ai tendance à être plutôt dans la balade et dans la musique, on va dire, langoureuse, qui ferait plaisir au médecin qu'on avait tout à l'heure.
Vous nous ferez écouter un petit peu ce que vous faites un jour, Pascal
Cobert ? Si vous voulez, oui, bien sûr, avec plaisir.
Ah, vous viendrez avec vos disques.
Ce sera pour la prochaine.
Ah non, je viendrai avec mon trio et on fera
quelque chose. Ah, ce serait extraordinaire.
Voilà une très bonne idée.
Rendez-vous est pris.
Absolument, je note.
Alors, on a parlé donc de Thelonious Monk. Il y avait Charlie Parker, c'est ça, qui jouait souvent
Parker,
avec lui.
Et
un autre soufflant.
Et Dizzy Gillespie.
Et Dizzy Gillespie, bien sûr, qui est aussi né en 1917. Donc, ouais. Grande année, 1917. Hein, par la révolution russe, il s'est passé pas mal de trucs. Dizzy Gillespie est né là. Dizzy est un peu un fou chantant du jazz aussi, donc c'est le fameux trompettiste avec les grosses joues, ouais. Que tout le monde connaît, la trompette coudée, puisque sa trompette est tombée et son pavillon partait vers le haut.
Donc la partie évasée de la trompette de l'instrument. Part vers le haut, c'est ça.
Oui, il jouait comme ça.
Et ben il jouait comme ça parce
c'est
qu'il,
son style.
Voilà, il avait trouvé sa marque de fabrique.
Et ça donnait un son particulier, voici la trompette.
Pendant qu'on écoute Dizzy Gillespie, il y a André Facetta, notre réalisateur, qui dit il faut dire à nos auditeurs ce qu'est une basse fretless. C'est vrai, ça ?
On voit bien la bonne remarque du sorcier des sons.
Alors, c'est quoi ?
Non, mais il a raison, effectivement. Alors, la basse fretless, c'est une basse sur laquelle on a enlevé. Sur les guitares, il y a des barrettes qui font la différence entre les cases. Mm-hmm. Et en fait, alors sur les guitares, c'est extrêmement rare. Je ne connais qu'un seul guitariste qui joue de la guitare fretless. C'est un magnifique Belge qui s'appelle Philippe Catherine. Mais sur la basse, il y a beaucoup. Jaco Pastorius, le premier, qui était un peu le précurseur de cette façon de jouer, on enlève les barrettes et donc on a une espèce on a un son qui est continu, c'est-à-dire qu'on passe du mi au mi bémol en descendant et il y a pas cette barrette qui fait la différence entre
les
deux.
Il y a moins de rupture, d'une certaine
façon.
Voilà,
c'est ça, exactement.
Vous écoutez RTL.
On raconte l'histoire du jazz sur RTL grâce au photographe Pascal Cobert, dont les photos servent de support principal à cette exposition Abécédaire amoureux du jazz qui se tient à Grenoble jusqu'au 17 septembre. On découvre les différents styles de jazz et les différentes révolutions. Et il y en a une qui s'est appelée le cool jazz. C'est quoi et qui en est la figure emblématique ?
Alors, celui qui a lancé le cool jazz, puisqu'il a lancé un disque qui s'appelait Birth of the Cool, la naissance du cool, c'était Miles Davis. Musique qui est née, alors effectivement un peu à New York, mais en réalité qui s'est beaucoup développée sur la côte ouest.
Et ça veut dire quoi, cool ?
Cool, ça veut dire cool. C'est une sorte de musique de chambre. Voilà, c'est ce qu'est la musique de chambre à l'orchestre symphonique, c'était le cool jazz. Alors Miles, mais évidemment tant d'autres, hein, des musiciens, beaucoup de musiciens blancs, hein, Chet Baker, Stan Getz.
Et quand le jazz est cool, ça donne ça ? Pepper jazz, vous voyez ?
Pepper jazz.
C'est quoi le pepper jazz ?
C'est cool, c'est tranquille, c'est installé, vous voyez ?
Ouais, moi je connais le pepper view, mais pas le pepper jazz.
Et le pepper pervers de Gottlieb.
De Gottlieb, c'était très très drôle. Le pervers pepper. Donc ça, c'est effectivement un extrait de Birth of the Cool. Donc l'album iconique, l'album qui a lancé ce
voilà,
cool jazz, on va essayer d'y retourner, qui a une particularité aussi, c'est ce courant du jazz, c'est qu'il y a pas mal de musiciens blancs qui s'y sont greffés, c'est ça ?
Absolument, oui. c'est ce que je disais à l'instant, Stan Getz, le saxophoniste qui a ramené aussi. Alors là, lui, il a découvert la musique brésilienne en allant au Rio. Il a d'ailleurs piqué quelques musiciennes brésiliennes. Il s'est marié avec l'une d'entre elles d'ailleurs. Et puis il a ramené cette musique brésilienne, en particulier la bossa nova, aux États-Unis. Et évidemment, de grands compositeurs comme Antonio Carlos Jobim. La musique bossa nova, en fait, n'a pas de lien direct avec le jazz, si ce n'est qu'il y a une complexité dans l'écriture harmonique de la bossa nova qui est assez impressionnante, presque plus proche de la musique classique européenne que du jazz. Et Stan Getz a importé cette musique aux États-Unis et aujourd'hui elle est pratiquée partout dans le monde entier.
Ça veut dire que la bossa nova ou la samba, les musiques brésiliennes, sont un peu des cousines du jazz, sont devenues des cousines du jazz?
Oui, ce sont un peu des cousines du jazz. Du reste, si on regarde la programmation des grands festivals de jazz, ces musiques-là sont toujours présentes. Il y a toujours au moins une soirée brésilienne dans un festival de jazz avec de très grands noms.
Et il y a toujours une girl from Ipanema.
Yeah. Coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
Bon, on entend le bruit des vagues, hein, c'est toujours aussi magique. On pourrait, Pascal Cobert, comme ça, décliner toutes les familles, toutes les petits embranchements, etc. du jazz.
Il y en a une myriade,
Il y en a autant que de façons de faire l'amour. J'ai lu ça dans votre livre.
Je dois avoir écrit
ABCD amoureux du jazz. Je ne sais pas si vous l'avez inventé ou si vous l'avez piqué à quelqu'un, mais en tout cas, c'est une très belle formule.
Non, j'avais pas écouté votre médecin juste avant.
Alors on va parler des peut-être, parce qu'on ne peut pas faire toutes les familles, mais peut-être d'autres musiciens de jazz que vous avez rencontrés. Par exemple, Michel Pietrucciani, qui était malheureusement un très très grand pianiste de jazz. C'était quel type de bonhomme?
Un grand petit pianiste, oui, effectivement. Ouais. Ah, c'était un bonhomme absolument incroyable, parce qu'en réalité, nous, on avait tendance à le protéger en le regardant. Et en fait, lui, c'est un bon vivant incroyable. Il adorait les femmes, il adorait boire, il adorait manger. Et il aimait rien tant que la vie. Alors, il est mort évidemment trop tôt parce que sa maladie. Mais c'était un facétieux, c'était un type qui arrêtait pas.
Et jouait avec l'objectif
bien sûr. Sur la photo que j'ai prise, là, effectivement, on le voit en train de regarder un caméraman qui est en fond de scène et qui est en train de le filmer pour les grands écrans qui est sur les façades des scènes. Des festivals, il est en train de regarder comme ça, il dit mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais ça l'amusait. Ça,
un
évidemment.
Petit côté cabot quoi.
Voilà, c'est ça.
Et une technique de pianiste très particulière.
Absolument
aussi.
Impressionnante.
Il tapait très fort sur les notes, c'est
un
ça
jeu, un jeu très percussif et puis surtout des mains absolument énormes, je crois. Enfin, moi je suis assez grand comme personnage, mais il avait des mains plus grandes que les miennes.
Alors qu'il mesurait
1m20, quoi. Enfin, donc c'était très impressionnant.
Pascal Cobert, dans le jazz, il y a aussi des histoires de famille, comme Bridgewater et sa fille China et Moses. On va les écouter, tiens, en duo lors du festival jazz à Vienne en 2010.
Je voudrais tout surtout me remercier ma mère de m'avoir élevée dans la joie, bonne humeur de la musique et dans la liberté totale de faire ce que j'avais envie. Merci, maman. Je suis tellement fière de ma fille et j'aimerais vous remercier de votre accueil. Elle avait peur, mais de vous voir debout comme ça, ça me fait chaud au cœur. Comme toujours, merci Vienne.
C'était un grand concert, vous y étiez, Pascal Cobert.
C'est drôle, ça me met les larmes aux yeux, cet extrait, parce que je ne l'ai pas réécouté depuis, c'était 2009 ou 2010. 2010, effectivement. Et je revois, effectivement, puisque c'est la photo qui est dans le livre et qui est dans l'expo, en très grand, je revois Didi Bridgewater, la mère, arrivant à la fin du concert de China Moses, sa fille, qui était un hommage à Dinah Washington, la grande chanteuse de blues américain. Et elle arrive sur scène, et ils ont chanté une chanson ensemble, et effectivement, elles se sont dit ça. Et Didi avait son petit chien Elliot dans la main, et Elliot est en train de tirer la langue au photographe. Et vraiment, ce que j'entends là, oui, c'est ça, c'est mon image mise en musique, mise en mots. C'est étonnant.
Merci beaucoup, Pascal Cobert.
Merci à vous.
Pascal, votre ABCDR amoureux du jazz, c'est donc aux éditions Snook et au musée de l'ancien évêché de Grenoble. J'y arrive pas avec cette exposition qui se tient jusqu'au 17 septembre. Et puis RTL, je rappelle, partenaire de Jazz à Juan du 15 au 23 juillet à la Pinède de Juan-les-Pins.
Vous écoutez RTL.